Bonjour Laurence de Coq.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur d'histoire géo en lycée, docteur en sciences de l'éducation. La FIAC, vous allez y aller? Vous êtes parisienne, vous êtes en vacances, c'est les vacances des profs cette semaine.
Oui, alors vous savez, les vacances des profs, elles sont souvent consacrées à travailler pour ce qui,
contrairement à une idée reçue,
contrairement à une idée reçue et assez développée en ce moment. Mais pourquoi pas? Oui, le manifeste Data Dada, ça me tente bien d'aller voir un petit peu de quoi il en retourne.
Ça, c'est effectivement en marge de la foire internationale d'art contemporain. Alors c'est pas pour parler d'art contemporain, cela dit, qu'on vous a fait venir ce matin de si bonne heure, mais c'est pour parler d'un sujet que vous connaissez bien, qui est le sujet de l'école. Vous le connaissez bien parce que vous le pratiquez au quotidien. On a voulu vous inviter cette semaine parce que plusieurs faits en fait ont déterminé ce choix. La question de l'absentéisme des professeurs, ou plus exactement du non-remplacement des professeurs quand ils sont absents. Ce n'est pas tout à fait la même façon de présenter les choses. Et puis les agressions répétées d'enseignants et de proviseurs, des violences qui ont émaillé la semaine depuis vendredi dernier à Calais. Un élève de terminale a cassé la mâchoire et plusieurs dents de son professeur en plein cours. Et puis lundi, des jeunes cagoulés ont lancé des cocktails Molotov dans l'enceinte d'un lycée à Tremblay en France. La proviseure a été rouée de coups. À Argenteuil, un enseignant a été passé à tabac en pleine rue par deux jeunes hommes, alors qu'il réprimandait une élève en ramenant sa classe de CE2 d'un cours de sport. Et à Colomiers, près de Toulouse, une professeure de sport a elle aussi été frappée au visage par un lycéen. C'est l'arbre qui cache la forêt, ces histoires-là? C'est une hypersensibilité de l'opinion et des médias? Laurence de Coq, comment regardez-vous cette semaine de violence?
Je ne crois pas que ce soit une hypersensibilité de l'opinion et des médias pour le coup. Je pense que l'école est aussi le miroir de ce que vit la société. Et depuis quelque temps, et notamment là, depuis, je dirais, la période des attentats, même si les violences existaient avant, hein, on a une société qui est de plus en plus violente dans le verbe, et notamment à l'égard d'une jeunesse qui est souvent montrée du doigt aussi comme potentiellement dangereuse. C'est là où peut-être les médias aussi ont parfois une responsabilité. Donc voilà, je pense que c'est tout un concours évidemment de circonstances qui font que l'école devient aussi le réceptacle, le miroir de ce qu'est la société.
Là, c'est pas la société qui est violente à l'égard des jeunes. En l'occurrence, c'est des jeunes qui sont violents.
Oui, mais on a
aussi,
on a les deux qui ne peuvent pas se penser l'un sans l'autre en fait. Donc dire ça, évidemment, c'est pas trouver des circonstances atténuantes, hein, c'est simplement trouver des explications. On a aujourd'hui une jeunesse en France qui va mal. Je pense que la priorité aujourd'hui de tout un chacun, ça doit être justement de faire attention à sa jeunesse. Donc encore une fois, ça n'explique pas et ça n'excuse pas l'ensemble de ces violences, mais en tout cas ça donne un prisme pour analyser ce qui se passe et pour analyser les crispations, je dirais presque des crispations intergénérationnelles qui se lisent notamment à travers ces violences-là et à d'autres endroits.
Laurence de Coq, je vous posais la question de l'hypersensibilité de l'opinion et des médias, parce que si l'on en croit Éric Debarbieux, qui est sociologue et qui est spécialiste de la violence à l'école et qui publie L'école face à la violence, là tous ces jours-ci chez Armand Collin, lui relativise la portée de ces agressions. Il dit que sur 12 000 personnels de l'éducation, 0,8% seulement, c'est beaucoup bien sûr en soi, mais seulement parmi ces 12 000 personnels ont été victimes d'une agression physique, comme si c'était plutôt un concours de circonstances là qui fait que cette semaine il y en a eu 3 ou 4 d'affilée.
Oui, je crois que c'est pour ça que je disais effectivement il y a un effet de conjoncture,
loop,
il y a un effet de hasard, il y a un effet loupe, ça c'est indéniable. Éric Debarbieux a tout à fait raison de poser la question des statistiques, parce que en effet c'est très compliqué. De toute façon, faire une enquête sur le terrain, c'est très compliqué parce que tout le monde ne met pas les mêmes mots derrière la question de la violence. Donc effectivement, la violence physique, ça, on peut à peu près la quantifier. Il y a des logiciels qui relèvent l'ensemble de ces agressions. Et lorsqu'elles sont physiques, on peut difficilement, et encore, hein, parfois, une menace peut être considérée comme une violence physique. Un coup involontaire d'un gamin, on a connu ça aussi, hein, un coup d'épaule mal placé, une carte, une porte qui est claquée, etc. Tous ces gestes d'humeur peuvent être ou non considérées comme des violences physiques. Vous avez des enseignants qui font remonter les données, vous avez d'autres qui ne le disent pas, soit parce qu'ils ne souhaitent pas que ça se sache, soit parce que tout simplement pour eux ce n'est pas considéré comme une violence. Bref, donc tout ça pour dire que c'est compliqué effectivement de quantifier dans l'école ce qui relève de la violence, donc il a raison de poser la question des statistiques. Par ailleurs, effectivement, moi sur maintenant à peu près 15 ans d'ancienneté, des violences physiques sur des chefs d'établissement, j'en ai vu deux fois. Des attaques d'établissement, j'en ai aussi connu hein, par des élèves extérieurs ou même internes à l'établissement.
Et deux fois, une il y a 15 ans et une il y a peu de temps, ou deux fois en deux ans?
Non, deux fois en, je dirais, 5-6 ans. Voilà, donc sur un temps un petit peu plus long, mais effectivement pas à mes tout débuts d'enseignante. Mais là où surtout le travail d'Éric Debarbieu est particulièrement important, c'est qu'il sociologise la question et qu'une des manières de poser la question, c'est évidemment de la poser par le biais des sciences sociales, de la poser par le biais de la sociologie et de prendre le temps de mener ces enquêtes sur un temps long avec un échantillon représentatif et pas uniquement en se basant en effet sur ce qui est publicisé ponctuellement par les médias.
Vous parliez, Laurence Decocq, du malaise de la jeunesse, cette jeunesse qui va mal. Est-ce que vous parleriez d'un malaise des enseignants?
Alors, c'est compliqué de parler d'un malaise
à partir de
des
vous,
enseignants.
Disons, est-ce que vous, oui, vous sentez bien dans votre classe aujourd'hui ou dans vos classes aujourd'hui? Et comment, quand vous en parlez avec vos collègues?
En parler à partir de moi, c'est pas très intéressant en réalité. Oui, moi je me sens bien, mais ça veut rien dire de ce qui se passe.
C'est un cas particulier.
Ce qui se passe ailleurs, c'est un cas particulier. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'on peut lire à travers les réactions des enseignants, soit qui me parviennent, soit que je peux lire par ailleurs ou voir, c'est qu'il y a des souffrances, hein, plus que des malaises. Malaise, ça veut pas dire grand chose. Souffrance, c'est un terme de la sociologie du travail. Donc, il y a des souffrances au travail de la part de certains enseignants. Je crois particulièrement en ce moment au collège, qui est toujours le maillon le plus faible du système éducatif. Maillon faible au sens où c'est celui qui, d'abord, où il est très difficile d'enseigner, il faut le rappeler quand même, hein, parce que des gamins entre 11 ans et 14 ans, c'est très compliqué, c'est beaucoup plus compliqué qu'après. On le sait, hein, entre 11 ans et 14 ans, ce ne sont plus du tout les mêmes, hein, c'est-à-dire que là, il y a un passage à l'adolescence qui est très difficile à accompagner, vraiment. Il faut rappeler ça. Et la réforme du collège a été particulièrement, est encore d'ailleurs particulièrement mal vécue par beaucoup, beaucoup d'enseignants, en particulier par la charge de travail qui leur incombe. Ça, c'est une première chose. Une charge de travail vraiment, hein, qui depuis septembre les a énormément fatigués. Ça, en revanche, je crois le dire objectivement. Et puis surtout par un effet d'empilement, en fait, de réformes, pas toutes d'ailleurs compatibles. Et donc, une multiplication d'injonctions contradictoires qui pèsent, voilà, sur ce maillon-là, qu'on accuse en fait de faire dysfonctionner une école, et puis des professeurs qui se dépatouillent entre des accusations, le sentiment de faire bien et le sentiment de ne faire jamais assez bien. Voilà. Donc je pense qu'il y a un problème à cet endroit-là.
Une charge de travail, dites-vous, qui les a fatigués, est-ce que c'est ce qui explique l'absence des professeurs? 40 000 journées de cours non assurées, c'est quand même beaucoup.
Non, alors là encore, faut en revenir aux statistiques. Heureusement, certains journalistes ont aussi fait le travail pour déconstruire un petit peu ce discours. Vous savez que parmi les fonctionnaires, il a aussi été démontré que les enseignants sont parmi les moins absents. Il faut le dire quand même. Enfin, moi, j'ai rencontré très très peu dans ma carrière d'enseignants absentéistes. Je crois pas qu'il y ait d'absentéisme dans le monde enseignant. Ça, là-dessus, il faut vraiment le rappeler. Donc, ce récent débat tombe mal. Voilà. Il tombe mal parce qu'encore une fois, il attaque à nouveau une profession qui va pas très très bien. Bon, pour d'autres raisons dont on pourra débattre d'ailleurs, hein, que simplement des questions de réforme. Une profession qui va pas très très bien et qui est doublement montré du doigt, une première fois pour sa fainéantise au moment du débat sur les primaires, parce que dire en gros on va supprimer des milliers de fonctionnaires enseignants et on va les remplacer par des CDD, c'est d'un mépris absolument incroyable. Et puis une seconde fois par rapport à ce débat sur le remplacement qui a été qui a été pour le coup remplacé médiatiquement par un débat sur leur absentéisme.
Oui, qui a été remplacé malgré pourtant la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, qui a pris acte du problème du non-remplacement des professeurs absents, parce qu'il y a quand même des professeurs qui sont absents et qui ne sont pas toujours remplacés. Ça, c'est un véritable problème. À la veille des vacances, elle a dévoilé un plan pour pallier à ce non-remplacement des professeurs. Et en même temps, elle a annoncé, disons, la création de 12 000 postes, 12 800 même postes en 2017, ce qui, ajouté aux 47 200 emplois qui ont été créés depuis 2012, atteint l'objectif des 60 000 postes promis par le gouvernement de François Hollande. Et malgré tout, des derniers chiffres, alors les sondages, on sait ce qu'ils valent, le 1 du Monde en fait encore sa une cette semaine, mais malgré tout, d'après des chiffres donnés par RMC et un récent sondage du CVPOF, 10% des professeurs auraient l'intention de voter Front National aux élections présidentielles l'année prochaine. Ils sont très en colère contre le gouvernement. Est-ce que vous en faites partie, Laurence Decoq? Je ne vais pas vous demander est-ce que vous allez voter.
De ceux qui vont voter le Front National, non. Hein,
vous dites vous-même. Bon, clairement. Mais est-ce que vous êtes en colère, vous aussi? Pour quelle raison? Ça a l'air plutôt positif comme résultat par rapport aux priorités que s'était donné le gouvernement en matière d'éducation nationale, non?
Alors, est-ce que je suis en colère? Oui, je pourrais être en colère. Enfin, je suis en colère de savoir que 10% de mes collègues vont voter Front National. C'est surtout ça qui m'inquiète énormément. Hein. Est-ce qu'il y a des raisons d'être déçu? Je crois que oui aussi, parce qu'il y avait eu une très très forte attente en 2012 par les enseignants du nouveau gouvernement, et une très forte attente notamment parce que j'aurais pas le temps de faire l'inventaire des coups qui ont été portés par le gouvernement précédent au monde enseignant, mais je crois que parmi les coups le plus important, il y a la suppression de la formation des enseignants. Ça a été quelque chose dont on ne mesure pas encore la portée, dont on n'est pas sorti et dont 50 gouvernements socialistes ne nous ont pas sortis, mais ça n'est pas de leur faute, c'est parce qu'il faut du temps pour se remettre de ça. Supprimer la formation des enseignants, ça veut dire en creux, c'est une profession qui ne nécessite pas de formation spécifique. C'est un dénigrement énorme d'une des professions qui, à mon sens, et parmi les plus difficiles à faire. On a tous, hein, là je vais faire un peu de la psychologie de bazar, mais toutes les mamans, tous les papas sont sortis des écoles ou des collèges en disant « Mon Dieu, c'est un métier que je ne pourrais jamais faire ». Qui n'a jamais dit ça? Tout le monde dit c'est difficile, et à juste titre. Hein, je veux dire, ça s'improvise pas d'être enseignant.
Donc, chaque papa, chaque maman qui a un ou deux, allez, même cinq enfants, se dit en entrant dans une classe « Mais comment font ces instituteurs avec 28 ou 30 élèves
comment c'est
tous
possible
les jours ?»
Voilà, donc vous imaginez ce que ça veut dire de jeter dans le grand bassin quelqu'un qui ne sait pas nager. C'est exactement ça qu'a fait le gouvernement précédent. Alors après, il faut se remettre de ça. En plus, avec toute une campagne de recrutement d'enseignants à Bac plus 3, à Pôle emploi, après 10 minutes d'entretien, enfin des trucs absolument délirants. On a été totalement dénigrés par le gouvernement de droite. Alors, il y a une énorme attente, évidemment, au moment de l'arrivée de François Hollande. Et je crois que cette attente, elle n'a pas été complètement assouvie. Aussi parce qu'on est très rapidement rentré dans une temporalité électoraliste et politicienne, et qu'une réforme du système éducatif, ça prend du temps, ça peut pas se faire en un an ou deux ans, et que les choses sont précipitées, elles ne sont donc pas comprises, et elles donnent un effet d'empilement, ce que je disais tout à l'heure, de réformes qui se juxtaposent les unes aux autres et donnent un feuilleté incompréhensible et inapplicable sur le terrain.
France Culture, la matinale du samedi, Caroline Brouet.
Nous sommes avec Laurence Decoq, qui est professeure d'histoire-géographie en lycée et qui est docteur en sciences de l'éducation. Nous parlons de l'école. C'est vrai qu'il y a des mesures, des réformes, et qu'il y a même des livres, à vrai dire, sur l'école, et des débats, avec ce constat presque toujours aussi négatif, voire parfois plus mauvais qu'avant, sur l'école de France, comme si les réformes, les livres et les débats ne suffisaient pas. Eh bien, un livre vient tout juste de paraître supplémentaire, j'ai envie de dire. J'espère que celui-là sera efficace, le livre de Jean-Michel Blanquet, L'école de demain, proposition au pluriel pour une éducation nationale rénovée. Jean-Michel Blanquer qui est avec nous au téléphone. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin au téléphone. Vous êtes l'actuel directeur de l'ESSEC. Vous êtes ancien recteur, ancien directeur général de l'enseignement scolaire à l'éducation nationale. Vous vous appuyez dans ce livre, L'école de demain, sur trois piliers. Des expériences, des comparaisons internationales et la science. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre votre livre et les précédents qui ont essayé déjà de réformer les choses? Jean-Michel Blanquer.
Alors ben, je ne sais pas si c'est ce qui fait la différence, puisque heureusement il y a quand même beaucoup de livres qui parlent aussi de notamment de la recherche dans le domaine de l'éducation. Mais j'ai voulu relier ces dimensions-là qui sont pas toujours connues du grand public avec une dimension très pragmatique, c'est-à-dire une dimension de proposition pour des évolutions de l'école. Parce que très souvent, il y a des débats sur l'école bon, qui sont nécessaires, évidemment, mais qui ne sont pas tellement appuyés sur des preuves. Alors, il me semble que l'expérimentation, d'une part, et la comparaison internationale, d'autre part, sont des bonnes bases pour pouvoir décider et faire les bons choix.
Est-ce que vous savez, Jean-Michel Blanquer, ce qu'il faut faire ? Laurence de Coq parlait d'un empilement. On ne comprend plus grand-chose. On ne sait plus trop par quel bout prendre l'école aujourd'hui. Est-ce que vous le savez ?
Bon, écoutez, j'ai quelques idées, en tout cas, puisque j'ai...
Quelques propositions, déjà.
En la matière, j'ai fait beaucoup de propositions dans le livre. Je pense qu'on n'a pas besoin de la grande réforme de l'éducation et qu'aujourd'hui, le système est fatigué des réformes. Donc ça, c'est un point dont il faut tenir compte. Et en même temps, on sent bien le besoin de passer à quelque chose d'autre pour remédier à nos grands problèmes. Donc j'essaye quand même de me concentrer sur le plus important, et pour moi le plus important c'est aujourd'hui les fondamentaux à l'école primaire, puisque on retrouve un peu à tous les niveaux du système un problème avec à peu près 20% des élèves. Chacun note que ce problème est à la source des inégalités sociales qui croissent d'après toutes les statistiques. Donc je pense qu'il faut prendre le problème à la racine, c'est pourquoi j'insiste beaucoup dans le livre sur ce qui se passe à l'école maternelle, même ce qui doit se passer avant l'école maternelle, sur la question du langage, et puis sur la question des savoirs fondamentaux à l'école primaire, et aussi aux questions de...
C'est-à-dire lire, écrire, compter, les fondamentaux ?
Oui, j'ajouterais lire, écrire, compter, et j'ajouterais respecter autrui, puisque c'est un point aussi très important. Là aussi, je relis ça à la question des sciences cognitives. Il est démontré que le potentiel cognitif de l'enfant est très fort, tout petit, dès la naissance. Il est démontré aussi que le potentiel d'empathie de l'enfant est très fort, très petit, et donc ce sont deux points, je dirais, d'optimisme, en tout cas d'optimisme potentiel. Et donc l'école peut avoir un rôle très important pour apprendre la sociabilité le plus vite possible. Et quand on voit les problèmes que rencontre notre société aujourd'hui, je pense qu'on doit se concentrer sur ces deux questions si on veut que les enfants qui sortent de l'école primaire arrivent dans le collège... au collège dans de bonnes conditions pour réussir ensuite.
Jean-Michel Blanquer, deux points d'optimisme, dites-vous. En même temps, c'est vrai que votre livre distingue régulièrement à chaque chapitre un scénario fondamental et un scénario optimal, comme si vous étiez conscient que c'est aujourd'hui très dur de réformer l'école. Merci beaucoup d'avoir été au téléphone avec nous ce matin. L'école de demain, des propositions pour une éducation nationale rénovée, vient tout juste de paraître aux éditions Odile Jacob. Laurence de Coq, lire, écrire, compter, respecter autrui, les fondamentaux à l'école primaire. Tout ça pose quand même la question fondamentale qu'on a vu aussi ressurgir en cette rentrée, c'est la question de la pédagogie. Quelle pédagogie pour nos élèves ? Vous venez de signer, il y a deux jours dans Le Monde, daté du 20 octobre avec Grégory Chamba, une tribune d'une femme en colère contre ce que vous appelez le retour à l'ordre moral à l'école, la nostalgie d'une école, de la ségrégation scolaire. Vous partez de cette idée que la pédagogie est en danger aujourd'hui ?
Oui, alors cette tribune que nous avons signée, alors une femme et un homme en colère, hein, on est effectivement tous les deux très en colère pour plusieurs raisons. On identifie une attaque, mais vraiment une attaque en règle contre la légitimité de la pédagogie. Alors c'est un débat très franco-français ça, parce qu'en fait nulle part ailleurs dans le monde on pourrait imaginer qu'on puisse délégitimer la pédagogie dans la manière de penser l'école. Mais il se trouve qu'en France on le fait depuis 30 ans pour des raisons qui seraient sans doute trop longues de rappeler ici. Et on a vu à la rentrée une parution d'ouvrages complètement catastrophistes de gens. Alors ça, c'est pareil, c'est propre à l'école. Vous savez, l'école, il y a 50 millions d'experts de l'école. Hein. Donc, vous avez des essais sur l'école qui pleuvent comme ça, qui paraissent régulièrement au moment de la rentrée. Et aujourd'hui, on passe dans un vocabulaire qui est de l'ordre du meurtre, des criminels, des assassins, etc.
Alors, vous faites référence, il faut préciser pour les auditeurs, vous faites référence en l'occurrence au livre de la la journaliste Carole Barjon, Mais qui sont les assassins de l'école, qui s'est beaucoup vendue, qui a fait beaucoup couler d'encre également. Elle fait le constat de l'échec des réformateurs dits pédagogistes, justement, de l'école, qui cherchaient plus d'égalité. Et d'ailleurs, ça a provoqué un vif échange dans Libération cette semaine entre l'un de ceux qui sont accusés, le sociologue François Dubé, et Laurent Geoffrin.
Oui, alors bon, pédagogiste, c'est typiquement le vocabulaire qui est employé justement par ceux qui fustigent la pédagogie. Donc moi, je récuse aussi l'utilisation de ce terme et j'appelle à ne pas l'utiliser parce qu'il positionne immédiatement politiquement celui qui l'utilise. Voilà, donc vous avez effectivement des dysfonctionnements dans l'école et ces dysfonctionnements constituent le terreau d'attaques en règle qui reposent sur des étayages, comment dire, sur des administrations de preuves qui sont particulièrement légères et surtout, et ça c'est assez insupportable, qui montrent du doigt des individus comme responsables de dysfonctionnement, au lieu de penser les choses de façon, encore une fois, structurelle et puis en s'appuyant sur des travaux qui sont déjà des travaux existants. On a le droit de ne pas être d'accord, mais on n'a pas le droit de raconter n'importe quoi et puis surtout de déposséder la parole expertise des enseignants eux-mêmes, parce que dans tout ce brouhaha, ce qu'on entend évidemment le moins, ce sont les enseignants. Hein. Donc on entend des parents,
mais
on entend des journalistes.
De
voilà,
Coq,
donc merci,
pour
merci.
Vous exprimer.
Merci de me faire parler. Mais en même temps, je suis aussi un individu et il faudrait trouver les moyens, et je crois que la question est là, il faudrait trouver le moyen d'entendre une parole collective, c'est-à-dire d'aller à la rencontre du terrain. Et c'est là où je ne rejoins pas totalement Monsieur Blanquer tout à l'heure au téléphone, c'est que il faut, je crois, aussi arrêter ce discours d'injonction à l'expérimentation, à l'innovation, etc. Je crois qu'il faut aussi aller voir ce qui est de l'ordre de la routine et de l'ordinaire du travail enseignant. Il se passe plein de choses dans les classes. C'est un travail inédit, le travail enseignant. Vous imaginez, vous, en septembre, vous rencontrez 30 petits individus que vous ne connaissez pas et vous passez un an avec eux. Quand je dis 30, c'est pour le primaire, parce que pour le collège et au lycée, c'est 30 fois 4 ou fois 5. Et vous passez un an de relations pédagogiques avec des petits êtres qu'il faut que, ou des grands d'ailleurs, qu'il faut que vous appreniez à connaître. C'est inédit comme travail. Il n'y a aucun autre endroit dans lequel ça se passe comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des jours où il se passe des choses absolument merveilleuses, des petits bonheurs, des choses auxquelles on pouvait ne pas s'attendre. Il y a des jours où c'est la catastrophe, alors que tout était bien préparé, calibré, etc. Et puis ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que vous n'êtes pas simplement le seul démiurge de ce qui va se passer dans une classe. Vous êtes en coopération avec tous ceux qui sont là et qui vous écoutent et qui vous titillent et qui vous chatouillent et qui vous embêtent et qui s'embêtent entre eux. C'est énorme ce qui se passe sur le plan de relationnel, sur le plan sociologique dans une classe. Bon, donc je rejoins d'ailleurs en ça la formation des enseignants. C'est pour ça qu'à mon avis tout repose là-dessus. Mais donc voilà, c'est un travail compliqué. C'est un travail qu'il faut pouvoir entendre et sur lequel les enseignants eux-mêmes doivent poser des mots de leur professionnalité et dire à des enseignants sans arrêt: innovez, innovez, faites ci, faites ça, allez-y, montrez que vous innovez mieux que votre voisin, etc. C'est totalement délétère, en réalité ça plombe. Donc ce qu'il faut d'abord aller regarder, c'est la routine, c'est le travail ordinaire, c'est ce qui marche, ce qui marche pas, et comment les gens en parlent. Et il faut leur laisser le temps d'en parler aussi. Et là, une fois qu'on aura une vraie connaissance du terrain et que ça aura été énoncé par les gens eux-mêmes, par les professionnels eux-mêmes, alors on pourra commencer à réfléchir collectivement.
Laurence de Coq, ce serait quoi votre éducation idéale, pour reprendre le titre du hors-série du Point qui paraît ces jours-ci? Quelle pédagogie vous appelez de vos voeux?
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de pédagogie idéale et je ne crois pas forcément qu'il y ait d'éducation idéale. Je dirais qu'il y a trois préceptes, grosso modo, qui me tiennent à cœur. Le premier, sur lequel il ne faut rien lâcher, c'est la question de l'égalité des intelligences. Effectivement, à la naissance. Ça, je suis absolument d'accord là-dessus. Le second, sur lequel il ne faut rien lâcher non plus, c'est que l'école a sa responsabilité dans la compensation des handicaps socioculturels. Il y a des familles dans lesquelles il n'y a pas de livres, il y a des familles dans lesquelles on a du mal avec la langue, il y a des familles qui ne sont pas familiarisées avec le fonctionnement compliqué du système éducatif. La troisième, et ça c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, c'est que j'aimerais qu'on parle un petit peu moins de méritocratie. Et j'aimerais que on cesse d'être dans le mythe que tous les enfants sont appelés à devenir en gros des dominants. Voilà, je voudrais qu'on cesse ce discours-là et qu'on soit davantage dans un accompagnement d'une école commune jusqu'à 18 ans. et qui donne les mêmes possibilités à tous et à toutes.
Vous citiez tout à l'heure un certain nombre, vous évoquiez disons un certain nombre d'ouvrages qui ont paru cette rentrée sur l'école. On a parlé du livre de Carole Barjon. Il en est un autre qui est un véritable best-seller. Il a vraiment marqué la rentrée. Vous l'évoquez d'ailleurs dans la tribune que vous avez signée, Laurence de Coq. C'est le livre de Céline Alvarez, Les lois naturelles de l'enfant, qui a paru aux éditions Les Arènes. Elle était l'invitée, Céline Alvarez, il y a 2 ans, avant donc d'écrire ce livre, dans Rue des Écoles sur France Culture. Je voudrais vous proposer d'écouter ce qu'elle dit et d'y réagir.
Moi, je n'ai jamais considéré les enfants comme des élèves dans la classe et je ne souhaite vraiment absolument pas leur apprendre à devenir élèves. Et voilà, ça c'est la première chose. Ce sont des enfants, je répète, ce sont des êtres humains en plein développement et ils ont besoin à ce moment-là, non pas qu'on les formate, mais qu'on leur permette de libérer ce qui préexiste déjà chez eux. C'est vraiment, on revient à l'étymologie du mot d'éducation, hein, qui est de faire sortir ce qui préexiste déjà, de faire sortir ce qu'il y a dedans. Donc notre travail, le travail des adultes, hein, pas seulement des enseignants, mais ça devrait être non pas de faire entrer, mais de faire sortir, non pas de contraindre, mais de permettre. Et j'ai du mal à comprendre qu'on veuille absolument faire des élèves, parce que faire des élèves, c'est plutôt le paradigme inverse, quoi.
Bon, Céline Alvarez qui prône dans son livre La rencontre des neurosciences et de la méthode Montessori, un livre là aussi polémique, hein, Laurence de Coq. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre?
Alors, de ce que je viens d'entendre, non, je crois qu'un enseignant, il est avec des élèves. C'est pas lui qui fait des élèves, c'est la situation de l'école qui fait que quand un enseignant est devant des enfants dans une classe, ça s'appelle des élèves. C'est un beau mot, élève. Il n'y a pas que des beaux mots dans le système éducatif, mais élève, en l'occurrence, c'est quand même un beau mot. Et c'est une belle fonction. Donc, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose, justement, de l'ordre d'un positionnement particulier à l'école, et que ce sont des élèves et que ce sont des enseignants. C'est pas un adulte avec des enfants ou un adulte avec des adolescents.